Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes en octobre 2019 et vous écoutez l'épisode 110 Chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Nous avons revêtu nos costumes de super-héros ce soir pour vous présenter la crème des chroniques de Proxy Jeux. Comme Bruce Wayne, nous nous dissimulons sous nos identités secrètes. Et oui, je suis Paul Gara, et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Dédé Schutz. Bonjour Dédé Schutz.
Salut Paul Gara. Alors oui, on est dans le manoir Wayne ou dans le manoir Schutz? Je suis perdu moi.
Écoute, est-ce qu'il y a des chauves-souris? C'est ça l'indice?
Non. Et c'est plutôt clair comme ambiance dans le manoir Schutz. Et... C'est pas sombre comme ça.
Et est-ce que Alfred t'a préparé ta petite tisane du soir?
Oui, il m'a donné mes petits chaussons chauffants et comme ça on peut bien enregistrer bien au chaud.
Bon, il est bien cet Alfred quand même. Hein.
Bah oui, c'est utile le petit personnel.
Et donc on signale au passage que Batman vient de fêter ses 80 ans.
Voilà.
Donc au mois de septembre dernier. Donc voilà. Mais un petit hommage, un petit clin d'œil. Mais on ne parlera pas pourtant du jeu Batman Chronicles. Absolument pas dans cet épisode.
Non, pas du tout. Mais par contre, on va remercier la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à tous nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci aussi à la famille Blue pour son don en nature et au réseau des cafés ludiques pour leur soutien financier. Alors pour commencer, on va revenir sur les nombreux commentaires.
Ouais, vous connaissez le petit rituel des commentaires. Et en plus, on va commencer par, moi je trouve, un commentaire excellent dont la première phrase est entièrement d'accord avec Paul Gara. Donc déjà, tu vois, ça c'est... Donc c'est Finger in the Nose qui revient sur l'aube des tribus dont on avait parlé lors de notre mini débrief de Bruxelles Game Festival. Voilà, et qui lui aussi trouvait, en fait, était assez partagé mon opinion sur le fait que le jeu avait été un peu survendu, enfin en tout cas avait énormément buzzé par rapport à ses qualités intrinsèques. Donc il expliquait que le jeu n'avait rien d'extraordinaire, mais pourtant coûtait une blinde si on voulait le matériel. Et en plus, il expliquait, parce que ça on l'avait pas dit, mais on peut racheter le matériel en version de luxe pour quasiment le même prix que le jeu. Donc en fait, si tu veux avoir vraiment du matériel magnifique, ça te double le prix. Donc tout de suite.
C'était le cas aussi dans le Terraforming Mars, où si t'achètes le petit truc pour mettre autour, c'est plus cher en fait que le jeu de base.
Ah oui, les inserts,
ouais.
Que moi j'ai acheté d'ailleurs, et c'est un carnage. À chaque fois que j'ouvre la boîte, c'est un carnage. Je m'aperçois que je suis pas très douée pour les activités manuelles de ce type, tu vois. Mais là, c'est vraiment pour avoir les petites ressources, les petits trucs un peu jolis. Qui sont dispensables, mais c'est vrai que quand tu les as, c'est super agréable. Mais enfin là, je pense que quand c'est pour un jeu vraiment exceptionnel, tu peux franchir le pas si t'es un petit peu t'es un petit peu accro. Mais pour un jeu moyen, c'est juste surréaliste quoi.
Bah après, faut bien qu'ils vivent ces gens-là. Non mais c'est mieux qu'ils le proposent en plus.
Oui.
Plutôt que de dire d'avoir une boîte de base à 70€
et que
quand tu l'achètes,
imposé,
tu te dis
dire,
c'est
ouais.
pas voilà.
Ouais,
au moins là tu te dis je peux tester le jeu et ensuite tu peux investir si le...
Après ce qui est vrai aussi c'est que je pense que dans l'ensemble ceux qui achètent des jeux sont des adultes à peu près qui ont à peu près conscience de ce qu'ils font et enfin tu vois quand ils acceptent d'acheter ça, enfin ils peuvent pas trop rejeter la responsabilité sur une autre personne qu'eux-mêmes quand ils se laissent aller on a tous nos moments de petit craquage moi je jette pas la pierre mais après faut pas. Mais voilà, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que le matériel n'est pas exceptionnel. Et si tu veux vraiment le truc d'exception, ça devient très cher pour un jeu, somme toute, assez moyen. Donc, tu vois, je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, quoi.
Ouais.
Je pense que du très beau matériel, tu vas vraiment le privilégier pour un jeu pour lequel tu as un énorme coup de cœur et qui restera un incontournable pour toi. Mmh.
Bah après, certains sur les réseaux sociaux l'ont bien apprécié, donc pourquoi pas.
Oui, bah on en reparle dans 2 ans, on verra. Si un jour il y aura un sorton grand jeu consacré à ce jeu-là, on verra.
Bah, on verra. C'est un peu plus que 2 ans hein, pour un sorton le grand jeu, je crois.
Ouais, non, il faut 10 ans quasiment. Et puis, donc, Finger in the Nose, il nous dit aussi que c'est toujours un plaisir d'écouter notre duo et qu'on se complète parfaitement.
Oh, c'est gentil, ça. Sauf quand le son n'est pas au rendez-vous.
Ouais. Bon, ouais, parce qu'on a eu des petits soucis, un petit souci.
Un petit souci de montage, là, j'ai un peu boosté un peu trop Paul Gara et du coup, ça sature un peu.
Alors, moi, je pense que ça partait d'une bonne intention de ta part qui était de me donner plus. De mettre plus en avant ma parole qui est tellement pas vraiment cruciale. Et en fait, ça produit un peu l'effet inverse. Donc, ouais, je ne sais pas si je dois crier sabotage ou pas.
Bah, j'essaierai de faire mieux ce mois-ci. Mais j'avais changé de casque, donc c'est peut-être un peu lié à ça. Donc je vais reprendre mon ancien casque.
Mais c'est pas mal parce que comme ça, les gens ont moins prêté attention aux bêtises que j'ai pu raconter et se sont focalisés sur le son de ma voix. Donc,
Mais tu ne dis jamais de bêtises.
Non, bien sûr, c'est bien connu.
Il y a d'autres gens dans les chroniques qui s'en occupent.
Alors, on a un autre retour aussi. On a eu plusieurs retours sur notre nouvelle chronique « Ceci est un jeu ».
Ouais.
Donc, on a eu notamment Azatoth qui a dit que c'était vraiment super sympa et c'était marrant de jouer en fait dans des chroniques consacrées au jeu.
Ouais. Bah, c'est étonnant que les gens qui nous écoutent aiment jouer quand même. Hein.
Ouais. Je ne les pensais pas comme ça, moi. Il y a eu plusieurs retours hein, en ce sens. On ne va peut-être pas tous les lister. Mais vraiment ça a remporté pas mal de suffrages c'est donc on espère que vous êtes dans les starting blocks pour l'énigme de ce soir.
Ouais.
On a eu également Mister Anzai donc qui lui a bien aimé aussi l'épisode des chroniques du mois dernier. Mais juste à trouver que la chronique qui était consacrée aux extensions de route était un peu longue. Bon, il a dit interminable. Tu vois, je manie l'art de la litote. Oui, il dit pour qui n'a pas le jeu. Je pense que quand tu as le jeu et que tu le connais, ça paraissait au contraire, ça passait crème. Mmh. Mais effectivement, je comprends. Mais ça, c'est toujours la difficulté quand on parle de quelque chose que tu connais pas du tout ou que t'as pas du tout pu.
Ouais, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas joué à Root. Et c'est vrai que en fait, je pense pas que ce soit la dernière chronique. Je pense que c'est l'accumulation de tout ce qu'on en a dit ces derniers mois sur Proxy Jeux, qui au bout d'un moment se dit bon, il y a pas un autre jeu que ça.
Tu veux dire qu'on a un peu fait du matraquage pro-route
Je pense que... Ouais. Je sais pas si vous avez touché un chèque ou...
Non, même pas. Même tu pas. Vois, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est spontané, incorruptible. Donc, et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir une nouvelle extension pour route. Donc, avec les taupes et je crois que ce sont encore des oiseaux, des corvidés. Donc, je ne m'aventurerai pas sur les spécificités ce soir, mais voilà, donc les taupes, c'est cool. Moi, j'adore les taupes, à titre perso. Donc, j'étais hyper contente de voir des taupes. Donc, elles vont faire des galeries souterraines et tout, ça va être top.
Ouais, bah oui.
Donc, on vous prévient, il y aura sûrement encore, on reviendra sûrement sur le sujet. Hein.
On ne s'arrête plus sur route.
Ouais.
Et un long commentaire aussi de Dr. Cheux. Qui revient sur toutes les chroniques et qui a bien aimé ton nouveau générique.
Oui, bah j'ai eu pas mal de retours aussi en ce sens, hein, qu'on trouvait ça très drôle. Et ça, le petit clin d'œil, la petite private joke est bien passée. Je pense qu'elle n'est pas si privée que ça, cette blague. Oui. Donc, mais en fait, je me dis que je pourrais faire presque un générique nouveau dans ce style par épisode, mais bon, comme je suis un peu paresseuse.
Ouais, ça fait un peu beaucoup de boulot, c'est ça.
ouais, c'est ça, il faut mine de rien. Donc, je pense que vous allez l'entendre encore un peu, puis on verra l'année prochaine si on a d'autres idées. Hein. Et puis, il a bien aimé aussi le SAV des jeux. Voilà. Mmh. Il a juste dit que la sonnerie du téléphone était un peu aiguë, mais ça, je pense que c'est... On n'est plus habitué à des sonneries comme ça, en fait, maintenant. On est tous habitués à avoir nos sonneries de téléphone portable personnalisées, donc...
Enfin, personnalisées, je connais beaucoup de gens avec des iPhones qui ont la sonnerie de base de l'iPhone.
Hein. Ah bon, toi, t'as pas mis... Est-ce que toi, t'as personnalisé ta sonnerie, quand même ?
Bien sûr, j'ai Star Wars en sonnerie.
Et est-ce que t'as des sonneries personnalisées différentes pour selon les personnes qui t'appellent ?
Non, je suis pas allé jusque-là.
Ouais. Moi, j'ai...
Pourquoi tu fais ça ?
Non, mais j'ai...
Quand ta belle-mère t'appelle...
Oui, bah, c'est connu, c'est tu mets Dark Vador. Non, moi, j'ai une musique... J'ai la musique de Castlevania. Et quand parfois, ça sonne dans l'open space, tu vois. Je pense que tout le monde est ravi. les musiques de vieux jeux vidéo. Et puis il a trouvé que notre débrief suite à la chronique d'Acariatre était un peu long. Notre débrief était un peu long. Ce qui est objectivement vrai. On s'est un peu laissé emporter.
Même si, alors certains sur Twitter ont qualifié ça de blabla crotte. Alors on dit, ok, d'accord. Ça fait plaisir.
Mais du coup, on a été déposer le terme immédiatement. On en a fait une marque et préparez-vous pour ce soir.
Ne cherchez plus blablacrotte.com, c'est nous. C'est comme les blablacars, mais voilà, je vous laisse imaginer.
Alors juste quand même, faut préciser que même si on a écouté, on écoute hein, quand même les chroniques de nos collègues de la Proxy Team avant d'enregistrer, nos échanges sont malgré tout très spontanés. Donc effectivement, on peut considérer qu'il y a des moments où c'est pas des analyses construites et réfléchies comme on pourrait le faire si on y réfléchissait plusieurs jours à l'avance avant d'enregistrer, comme quand on fait d'autres types d'émissions, les interviews, ce genre de choses. Là, c'est un peu aussi l'objectif des chroniques, c'est d'avoir ce petit retour un peu, ce petit côté discussion
à chaud.
Entre potes, un peu à chaud, à bâton rompu. Donc forcément, il y a un petit côté qui a fait du commerce, on peut pas le nier, il y a un petit peu de ça aussi parce que c'est du à chaud, donc on n'est pas tous des génies de l'analyse, tu vois, H24. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus peut-être que c'était un peu long effectivement, mais je trouve que c'était un petit peu injuste ce qualificatif.
Wow. Donc, moi, je pensais que tout était écrit hein, dans les chroniques. J'ai pas le texte de ce soir, donc je vais improviser.
Bah oui, voilà. Mais attends, nous, on est naturellement drôle. Ah. C'est quand même ça qu'il faut noter. Tu vois, c'est que de l'impro, nous.
Voilà. Il y a juste les blagues sur Hammer qui sont écrites.
Oui. Bah, c'est là, en fait, on les a listées. On en a pour toute l'année, donc. Ouais. Et puis aussi, on revient sur le débat d'en route, toujours sur loutre versus castor. Donc, Donc je vous laisse aller lire pour connaître toutes les différences vraiment anatomiques entre une loutre et un castor. C'est assez intéressant. Enfin, moi, je n'étais pas à ce point, je m'aperçois que j'étais vraiment ignorante en la matière.
Et un autre long commentaire, c'est Philippe Leray, oui, qui a une longue plume sur un peu toutes les chroniques, et notamment il a bien aimé la chronique « Ceci est un jeu ». Alors, je ne sais pas si les gens qui disent qu'ils ont bien aimé la chronique, c'est pour essayer de gagner.
Ouais, je pense qu'ils essayent d'acheter le jury impartial qui déterminera le vainqueur. Et puis il a aussi noté la chronique de Flavien pardon autour du jeu, donc qui revient un peu sur des aspects culturels qu'on peut rapprocher d'un jeu par son thème. Donc lui il a donné d'autres références en matière de littérature qui peuvent rentrer un peu dans le thème que vous avez décrit Flavien le mois dernier sur le jeu Deadwood et finalement cette thématique western.
Ouais.
On a aussi Gros Vaste qui lui il explique que toutes les chroniques lui l'intéressent pas au même niveau, mais que c'est bien, que ce qu'il aime bien c'est ce côté un petit peu melting pot et qu'on puisse picorer en fait selon ses goûts. Donc c'est vraiment l'idée hein, c'est qu'on trouve un petit peu des choses diverses et variées et qui aussi on peut, il y a des choses qu'on va peut-être écouter une fois par hasard et puis y revenir justement, donc c'est un peu l'intérêt. Et il revient aussi sur la chronique du pionfesseur avec la mécanique du I split you choose, où il note qu'effectivement elle est peu répandue et qu'il dit que c'est un mécanisme qui est beaucoup plus mis en valeur dans les jeux à deux.
Et d'ailleurs Renaud parle aussi de Santorini.
Le chanteur ?
Non, je ne sais pas s'il chante, peut-être sous la douche. En tout cas, il commente.
Oui, pour le choix des divinités, puisque dans Santorini, on peut jouer à plus que deux, mais qui est vraiment destiné en principe à ce qui est meilleur à deux. Et effectivement, on va choisir une divinité en début de partie qui va nous donner un pouvoir, et effectivement, on retrouve cet aspect de choix qu'on peut laisser à l'adversaire. Mais je pense qu'aussi dans Seven Wonders, tu sais, quand on choisit, dans Seven Wonders Duel, quand on choisit les merveilles, il y a un petit peu de ça, puisque on va choisir, le premier joueur va choisir, il y a quatre merveilles, on en choisit une, le premier joueur en choisit une, le second joueur va choisir deux autres, et puis le premier joueur va prendre la quatrième restante.
Ouais, c'est
peut-être pas exactement la même chose, mais ça
c'est plus un équilibrage du premier joueur. Ouais, c'est souvent,
ouais, l'avantage c'est au premier,
c'est souvent dans
joueur.
Ce sens-là où quand il y a plus de joueurs, on fait un tour et le deuxième tour est dans l'autre sens, pour que si t'es le dernier, t'es le premier au deuxième tour, les derniers seront les premiers. comme disait
exactement.
Un grand penseur.
Et puis, ah bah, le commentaire essentiel.
Du Twin.
Indispensable.
Il s'étonne d'être un influenceur de renom.
Ben oui, parce que c'est lui qui a quand même lancé aussi cette envie de commenter permanente. Donc, il a fait beaucoup d'émules et c'est super cool.
Ben oui. Bon, ça fait des émissions plus longues, un peu vu. Et du coup, on va continuer rapidement avec Nico Banana qui nous propose aussi un jeu de Je partage, tu choisis. C'est Dragon's Gold de Bruno Feduti. Je n'ai pas joué non plus.
Moi, je connais Dragon tout court de Bruno Feduti, mais pas celui-là. On a aussi un commentaire de Mathias qui revient un petit peu sur l'ensemble des chroniques. Donc voilà. Qui aime beaucoup l'épisode, il a bien aimé Ceci est un jeu, il aime bien le SAV, mais il a été manifestement gêné par Tata Suzanne.
Ah.
Je sais pas si c'est des réminiscences d'une personne connue. Il a rigolé sur le générique de Joueur Né, mais il a aussi noté que ma voix sature
et que
la sonnerie du téléphone est trop forte.
tout le monde a remarqué que je me suis planté, hein, c'est bon. Mais je couperai ton micro, comme ça je parlerai tout seul, comme ça on verra pas que tu satures.
Ouais, voilà, c'est ça.
On va enchaîner directement sur les chroniques, avec ta chronique.
Oh là là, mon Dieu.
Où tu nous parles de Nessie.
Maman, je m'ennuie.
À quoi tu veux jouer ?
À tout, sauf à un Roll'n'Ride.
Tu connais Race for the Galaxy ? C'est comme un Roll'n'Ride, mais ça n'a aucun rapport. Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis Paul Gara et ce mois-ci, je vous propose de développer la fibre scientifique de vos enfants en les incitant à devenir cryptozoologues. À peine 5 ans et vous rêvez déjà d'un bac S et d'une prépa scientifique pour votre fille. Alors on me dit en aparté que techniquement la filière S n'existe plus, damnet. Et pourtant, si un esprit de zététicien sommeille en vous, vous savez que la cryptozoologie est tout sauf scientifique. Parce que la cryptozoologie consiste en l'étude, logos, des animaux, zone, cachés, cryptos. C'est-à-dire ceux dont l'existence n'est pas prouvée scientifiquement, mais repose uniquement sur des témoignages et représentations, et parfois des canulars. Et vous l'avez compris, l'un des représentants les plus célèbres de la cryptozoologie n'est autre que le monstre du Loch Ness, Nessie pour les intimes, qui, soulignons-le, tout comme les joueurs sont aussi des joueuses, est supposé être une fille. Nessie est un jeu de
Hans-Peter Schliemann et Bernard Weber,
édité par Lifestyle Board Games. Illustré par Sergei Kardakov, il est disponible chez Philibert au prix de 26,90€ et est préconisé pour 2 à 4 joueuses à partir de 6 ans. Dans Nessie, les joueuses incarnent des plongeuses qui scrutent les eaux boueuses du Loch Ness afin de réussir à photographier entièrement la plus célèbre des créatures lacustres. Armées d'un téléphone portable qui rappelle par sa forme les appareils de la célèbre marque à la pomme, les joueuses doivent collecter 6 photos de Nessie, chacune représentant une partie de son corps, tête, queue, dos, nageoire, etc. Chaque photo réalisée est ainsi placée sur le téléphone portable de la joueuse et la première joueuse à réussir les 6 photos gagne la partie. Le cœur du jeu va donc être de prendre les fameux clichés. Pour ce faire, les joueuses ont devant elles un plateau figurant le Loch Ness. En réalité, la boîte inclut une sorte de double fond sur lequel on va disposer des jetons représentant pour certains les parties du corps de Nessie à photographier, mais aussi des poissons, des algues, des coquillages. Bref, plein de trucs qu'on peut trouver dans les eaux profondes. Mais pas de vieilles chaussures ou de sacs en plastique. On recouvre les jetons d'une planche qui ressemble à s'y méprendre à une punchboard, qui inclut des encoches de forme ovale, représentant les spots de plongée, chaque encoche étant recouverte d'une tuile fonctionnant comme un petit couvercle. La mécanique du jeu va donc être de déplacer sa plongeuse de spot de plongée en spot de plongée pour récolter les 6 clichés photographiques indispensables pour enfin prouver au monde incrédule l'existence de notre brave Nessie. Donc, on se déplace, on choisit le trou qu'on souhaite explorer, on soulève la tuile et on regarde ce qu'on trouve dans les eaux profondes du loch. Si la joueuse peut voir un jeton représentant la créature, elle peut ajouter le cliché sur son appareil photo. Si elle découvre un poisson chance, elle peut rejouer. Sinon, eh bien tant pis pour elle, il faudra plonger ailleurs. Mais avant de reposer le couvercle qui cache le fond de l'eau, il faut nettoyer, c'est-à-dire pousser délicatement du bout du doigt les jetons révélés pour qu'ainsi, comme si le courant faisait son œuvre, les trésors du loch ne restent pas à la même place. La première joueuse qui, à l'issue de ses descentes en eau trouble, aura réuni les 6 photos, remporte donc la partie. Nessie est un jeu qui a les défauts de ses qualités. Tout d'abord, à l'ouverture de la boîte, on ne peut que se dire « waouh ». Le thème, qui ne peut que plaire aux enfants comme aux plus grands, est parfaitement illustré et adapté pour un univers destiné aux plus jeunes. La boîte avec son double fond qui permet de créer le plateau de jeu est aussi réussie. Elle invite à la manipulation, elle attise la curiosité de savoir ce qui se cache sous les trous de plongée. Mais parfois, cette manipulation peut se révéler fastidieuse quand les tentatives se répètent et se révèlent infructueuses. Par ailleurs, la boîte est assez imposante, et pourtant, une fois le jeu dépunché, on n'est pas tout à fait sûr de savoir comment ranger tout ça à l'intérieur. Bon point également, Nessie ne fonctionne pas sur un mécanisme de memory. En effet, il ne s'agit pas de retenir où se cachent les 6 clichés à prendre de notre animal fantastique. On peut bien sûr se baser sur les découvertes des autres joueuses pour décider où plonger. Mais le système du nettoyage, après chaque exploration, permet vraiment de changer la donne, de modifier la configuration des fonds lacustres pour les plongeuses suivantes. Et forcément, on risque parfois de mettre un certain temps, beaucoup de temps, à dénicher son dernier cliché, ce qui peut engendrer quelques moments d'agacement et de frustration, étirant un peu de façon artificielle la durée de la partie. Alors ne boudons pas notre plaisir, Nessie est un chouette jeu, servi par un matériel original et agréable et de très belles illustrations. Il n'est pas exempt de quelques défauts, mais sur lesquels on passera aisément car il fonctionne très bien auprès des enfants qui auront tout autant de chances que leurs parents de gagner la partie. Un jeu qu'on prendra plaisir à partager avec ses enfants, un après-midi d'automne brumeux, au coin du feu, un verre de Talisker à la main pour affronter les eaux glacées du Loch Ness. Enfin, rien de tel que de profiter d'une partie de Nessie pour discuter avec vos enfants de ce qu'est la cryptozoologie et de leur révéler que les adultes aussi inventent des histoires et sont capables de mentir. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique destinée aux plus jeunes de nos joueuses et néanmoins auditrices. D'ici là, fêtez Halloween comme il se doit, digérez les kilos de bonbons et autres sucreries rapportées par vos enfants, sortez vos jeux qui font un peu peur et bien sûr, jouez bien, surtout avec vos enfants.
Merci Paul Gara pour cette chronique. Alors la cryptozoologie, c'est pas souvent utilisé comme terme.
Est-ce que ça t'a appris quelque chose au moins, tu vois, l'aspect pédagogique de cette chronique?
Non, parce que je connaissais déjà la cryptozoologie. Il y avait eu un très bon dossier dans l'improbable podcast.
Bravo.
Où il parlait de la cryptozoologie, donc j'étais un peu... J'étais un peu au fait de la chose, du Yeti et tout ça.
D'ailleurs, bon, Nessie, c'est le plus mignon hein, dans le lot, parce qu'il y a des créatures qui sont dans la cryptologie qui sont vraiment assez répugnantes. Donc, si vous allez sur le lien Wikipédia, vous verrez, il y en a quelques-unes assez dégueulasses. Et moi, j'ai quand même brisé le cœur de mes enfants, parce qu'ils auraient aimé que Nessie existe. Quand même, il y a une partie 2, tu vois, une partie 2 qui aime l'enchantement du monde, qui aurait voulu qu'il existe, qu'elle existe, et je leur ai dit non, c'est un vaste canular.
Mais non, mais attends, non, c'est pas un canular. Enfin, personne n'a jamais prouvé qu'il y avait rien. On sait encore que c'est super profond et qu'à certains endroits,
on ne prouve pas une chose négative. Il faut prouver son existence. Tant que son existence n'a pas été prouvée, ça n'existe pas parce que sur la base de nos connaissances, il est raisonnable de penser que si on n'a pas de preuve de son existence, ça n'existe pas. Donc ne dis pas ça.
Et alors je remarque que comme tu n'arrives plus à dire les noms des auteurs qui sont trop compliqués, tu le donnes le boulot à ta fille.
Oui, et t'as vu, elle s'en est pas si mal sortie quand même. Hein.
Bah ouais, je pense que j'aurais pas fait aussi bien.
Il y a eu plusieurs prises, hein, j'avoue, les secrets de tournage.
Moi j'imagine. Comme nous là, on fait 5 prises ce soir.
Ouais. Pour faire nos blagues 5 fois, c'est un peu. On fatigue.
Et on garde le meilleur.
Ou le pire, ça dépend. Ça dépend de notre humeur.
Et en parlant du meilleur et du pire, on va enchaîner avec le SAV des jeux de société de Suijo et Dani.
Allô,
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 allô.
SAV des jeux de société, j'écoute. SAV des jeux de société, bonjour.
Bonjour, alors, je suis en train de préparer ma campagne Kickstarter.
Oui, très bien. Enfin, ici, on est plutôt au SAV, donc pour les jeux déjà créés...
Oui, mais c'est vraiment juste pour un avis, parce que je réfléchis au stretch goal. Je voudrais faire un truc super original, et j'hésite entre différentes idées.
Ah, dites-moi, je peux peut-être vous aider.
Alors, c'est déjà un jeu de civilisation. Alors, j'ai pensé à du papier toilette imprimé avec les meeples du jeu, ou alors un paquet de pâte à crêpes déshydratée, et sinon, bon, c'est peut-être un petit peu osé, un fendeur de bûche.
Alors là, oui, enfin, c'est original, hein, mais je crois que vous devriez faire le choix vous-même. Comme ça, le jeu sera vraiment le reflet de votre personnalité, vous voyez. Bon, en tout cas, bonne journée et jouez bien.
SAV des jeux de société, bonjour.
Salut mon chou, c'est Tata Suzanne.
Oh, salut Tata, alors, comment ça va?
Oh, ça va bien, on a fait une soirée croque-carotte. Je peux dire qu'il n'y a pas que la carotte qu'on a croquée.
Ah, oh, mais c'est pas possible, Tata.
Et les petits lapins, ils sont tombés dans le trou pas qu'une fois.
Ah, oh, mais Tata, mais ça suffit, oui.
Oui, bon. Tu viens manger dimanche?
Oui, 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 à dimanche, Tata.
Salut des jeux de société, bonjour.
Bonjour, alors c'était pour savoir, est-ce qu'il existe des applis sur les jeux de société?
Ah oui, mais enfin, ça dépend pour quoi faire.
Alors, des applis pour catégoriser les jeux et les joueurs.
Hein? Comment ça, les joueurs?
Oui, pour savoir avec qui on veut jouer ou pas.
Voilà, c'est bien étrange, vous êtes qui exactement?
Mais voyons, mais c'est moi! Celle qui veut pas jouer avec Camille, car il mange les bonbons à table, ou avec Gertrude, qui touche tout le temps avec son portable. Oui, oui, c'est moi! Super connasse! Qui veut pas jouer avec Michel, car elle réfléchit trop longtemps. Oui, c'est moi! Super connasse! Alors, des applis pour catégoriser les jeux et les joueurs. SAV des jeux de société, bonjour!
Oui, bonjour, j'essaie de créer un jeu qui marche.
Comment ça, un jeu qui marche?
Un jeu que je vends beaucoup pour devenir millionnaire, quoi. Je veux savoir quelle sera la prochaine tendance.
La tendance?
Ah oui, on a eu les zombies, les vikings, les vampires. C'est quoi la prochaine tendance?
Ah, alors attendez, je consulte mes fiches. Les papillons, allez-y. Dans 6 mois, c'est le top tendance.
Les papillons? Ah, bah merci, merci. Je vais appeler ça. Butterfly.
Ah, alors ça, c'est très original, monsieur. Allez, jouez bien.
SAV des jeux de société, bonjour.
Bonjour, alors je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon jeu.
Oui, dites-moi.
Alors, il y a une forme en plastique qui prend toute la boîte et...
Un thermoformage, madame. On appelle ça un thermoformage.
Oui, eh bien, le thermoformage, comme vous dites, il permet pas de ranger le jeu.
Comment ça? Bah, c'est fait pour ça, normalement.
Bah oui, mais là, les tuiles, elles rentrent pas dans les emplacements et tout tient pas dans la boîte.
Alors, je vois la meilleure solution, c'est les sachets plastiques, hein.
Ah bon? Mais je vais pas encore acheter du plastique.
Mais si, et puis vous pouvez trouver des sacs faits avec des sacs, par exemple, ou des pulls en polaire.
Ah, bon bah, très bien, je vais regarder, alors. Merci.
Et jouez bien!
Merci au SAV. Alors, Dani, elle participe même oralement.
C'est aussi la parité dans le SAV. Ils ont...
voilà, un autre duo s'est formé pour le meilleur et pour le pire.
C'est quand même la partie qu'on ne peut pas écouter en voiture avec ses enfants, ça.
La faute à Tata Suzanne, c'est ça?
Ah, je pense que Tata Suzanne est assez redoutable, tu vois. T'as pas du tout envie parce que tes enfants, ils vont te poser des questions derrière. T'as pas du tout envie d'expliquer les blagues.
Ok, mais avec tes enfants, par contre, tu peux jouer aux aventuriers du rail, mon premier aventurier du rail.
Oui, ou les aventuriers du rail junior, ou je découvre les aventuriers du rail, je ne sais pas quel jeu. C'est Cyrus qui va nous le dire de toute façon, comment ça s'appelle en vrai.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Je suis Cyrus. Le mois dernier, je vous avais promis de vous emmener dans un univers bien différent de One Deck Dungeon, et je pense que vous ne pourrez pas dire que je vous ai menti, puisque je vous emmène cette fois à la découverte du jeu Les Aventuriers du Rail, mais la version Mon Premier Voyage, qui n'est autre que la version pour enfants du succès planétaire de Days of Wonder, créé par Alan Hermoun. Les Aventuriers du Rail, c'est une série de jeux qui ne s'arrête plus. Le nombre d'extensions, de versions et de déclinaisons est hallucinant. Mystery Train, USA 1910, version Europe, Suisse, version D, Europa 1912, Alvin et Dexter, Inde, Asie, version carte, Afrique, Halloween, Royaume-Uni, Pennsylvanie, France et Old West, La Reine des Neiges, Pologne, Japon et Asie, Autour du Monde, Londres, à la plage, New York, Allemagne, Pays Nordique, McLean, Express. Bon, j'exclus pas d'en avoir oublié un ou deux que j'ai remplacés avantageusement. Et donc cette version pour enfants, sortie en 2016, elle-même existant en version US et en version Europe. Oui, parce qu'il en faut pour les enfants de tous les pays, ou presque, hein, les plus riches quoi. Dans cette version, on retrouve les bases du grand frère avec les 3 actions possibles, mais légèrement revues. On retrouvera l'essentiel des sensations du jeu de base, en moins méchant, plus condensé et simplifié pour les enfants à partir de 6 ans. voire même dès 5 ans. En tout cas, mon fils, qui n'est pas si habitué que ça des jeux de société, s'en sort avec un peu d'aide sur la partie tactique. Mais je suis là pour vous parler du portage, et donc c'est ce qu'on va faire. L'application est sortie en septembre 2017 et a été réalisée par Payoff Technology, qui est une société lyonnaise qui s'est, semble-t-il, spécialisée dans la VR. Le jeu est distribué par Asmodee Digital. Il est vendu au prix de 2,29€ sur iOS, 1,99€ sur le Play Store et 4,99€ sur Steam. Et comme d'habitude, je vais vous parler de la version iOS. Le jeu est disponible en 6 langues, dont le français. Étant donné que c'est un jeu destiné pour les enfants, j'ai envie de dire ouf. L'application vous propose un tutoriel avec un départ de partie qui est guidé, mais le texte n'est pas lu. Il sera donc indispensable d'accompagner votre enfant pour sa première partie, ce qui n'est pas forcément choquant. Et donc, partant de ce principe, en tout cas, vous aurez toutes les clés pour jouer grâce à ce tutoriel. Et si jamais un doute persiste, vous pourrez vous référer aux règles qui sont présentées sous la forme de 6 vignettes. Autant vous dire que effectivement, les règles sont très simples. Surtout si vous avez déjà joué aux aventuriers du rail. Et on revient sur la page d'accueil. Alors, la musique de la page d'accueil a un tantinet énervante. Hein. Tandis que celle qui est proposée dans le jeu est beaucoup mieux à mon sens. Petit plus non négligeable, l'application propose les deux cartes existantes, donc la version US et la version Europe, sans surcoût. Les animations au jeu sont plutôt sympas et devraient plaire aux enfants, ainsi que les effets sonores qui sont associés à ces animations. Yeah ! Si on regarde du côté des modes de jeu, on peut jouer de 2 à 4 joueurs, donc à partir de 2 joueurs en multilocal, avec ou sans IA, les IA présentant 3 niveaux de difficulté différentes, plutôt bien respectés. En revanche, le jeu n'est vraiment pas dénué de hasard, donc faut pas non plus s'attendre à des folies de la part de l'IA. Il existe un système de récompense par collection de pop-up, en tout cas c'est ce qui est dit, hein. Donc ils n'ont le pop-up que le nom, puisque ce sont en fait que des images qui ne s'animent même pas. En fait, ces images viennent s'ajouter sur la carte en cours de partie, selon les réalisations en fait, du joueur. Je pense qu'il aurait été possible, même pour des joueurs de 6-7 ans, de proposer quelques objectifs simples qui auraient renforcé le défi du jeu. Pour en finir avec les fonctionnalités annexes, on peut se connecter avec son compte Asmodee Digital. On peut. Voilà. Ça sert à rien. Mais on peut. Parlons maintenant des choses qui fâchent. L'ergonomie. Une fois passé la page d'accueil, le jeu est intégralement en 3D. Et cette 3D rend la lisibilité du plateau vraiment difficile. Les effets de 3D rendent les voix peu lisibles. Pour parler d'un autre aspect, le fait d'avoir choisi de proposer 2 options ergonomiques pour poser les wagons est finalement complètement contre-intuitif. En particulier le système de drag and drop, hein, qui consiste à toucher un objet avec le doigt et le glisser pour l'amener à l'endroit souhaité. Bien, ce système en fait est associé à un zoom sur l'écran. Stupéfaction dans les yeux de votre enfant garantie. Et forcément, une fois que le zoom est effectué, le doigt n'est plus exactement là où vous l'avez emmené. Et je ne parle pas des voix qu'on ne parvient pas à atteindre en fait, avec cette technique, carrément. Autre exemple, lorsque vous ne faites rien, les wagons et les villes à atteindre s'animent, réduisant encore un peu plus la lisibilité, focalisant sur les wagons qui bougent, alors bon, on s'en fout un peu, ce qui est encore plus vrai, du coup, bah, forcément pour les enfants. Alors c'est peut-être pas un constat général à faire, hein, j'ai pas pu essayer sur un pool d'enfants très large, mais avec mon fils, en tout cas, j'ai remarqué qu'il avait de réelles difficultés avec l'application, difficultés qu'il n'avait pas avec le jeu physique. Et par exemple, il n'a rencontré aucun problème sur l'application de Qui l'a vu, que je vous ai chroniqué la saison dernière. Peut-être faut-il reconsidérer du coup l'âge de 6 ans comme étant effectivement nécessaire pour jouer à l'application. En conclusion, le jeu a surtout pour lui d'être l'adaptation d'un bon jeu pour enfants et d'être disponible pour un prix modique. Et oui, je vous rappelle, 1,99€ sur Android, 2,29€ sur iOS. Il faut quand même bien admettre que la réalisation n'est pas à la hauteur d'un jeu de la famille des aventuriers du rail, c'est bien dommage. Malgré tout, effectivement, j'ai envie de vous dire, pour 2€, ce serait quand même dommage de s'en passer. Alors juste retenez ce conseil, hein, si vous faites l'acquisition de cette application, surtout n'oubliez pas, n'utilisez pas le drag and drop. Le mois prochain, vous retrouverez enfin Antoine Doel dans les plateaux numériques. Moi, je vous retrouve dans 2 mois pour cette chronique, et bien avant pour d'autres formats. D'ici là, jouez bien!
Merci Cyrus pour cette chronique. Alors bon, faut éviter le drag and drop. C'est ça qu'on, a, ouais. qu'on retiendra.
Moi, je connaissais même pas ce terme.
Alors que je suis sûr que tu le faisais pour glisser des trucs d'un dossier à l'autre.
Ouais, peut-être.
Dans Windows.
Ouais, peut-être. Non. Je ne sais pas. Tout de suite, ça, tu vois, j'ai du mal à le conceptualiser. Mais donc, je note que Cyrus encourage son fils à jouer quand même sur des écrans. C'est pas bien.
Ouais, pas avant 3 ans, on avait dit.
Mais je crois que s'il est plus grand quand même.
Alors ça.
Moi, j'ai toujours, ouais, je sais pas. J'ai toujours peur qu'ils appuient sur autre chose. Tu vois, c'est jamais.
Mais il l'entraîne pour le remplacer et qu'il fasse ses chroniques à sa place.
Ouais, il a bien raison.
Il dit hop, tiens, tu joues à ça, tu me dis ce que t'en as pensé et hop, moi je fais ma chronique. Et,
Ah, c'est pratique ça.
Ouais, tiens.
Faut creuser le sujet. Mais ouais. Après, moi je sais pas du tout, tu vois, si tu. Est-ce que. Moi, je suis un peu partagée sur le fait de laisser les enfants. Enfin, je trouve qu'ils ont déjà des consoles, tu vois. Je me sais pas, même pour 2 euros, je sais pas si j'irais leur acheter en plus des jeux sur la tablette.
Bah,
alors que moi, c'est pas grave. Si moi, je m'achète des jeux sur la tablette alors que j'ai des jeux sur la console, c'est moins.
Ben oui, mais parce que toi, tu en fais un usage responsable et tu rentabilises tes jeux.
Ouais, bien sûr. Voilà, en fait, c'est Cyrus qui joue aux Aventuriers du Rail Junior, mais il veut pas nous dire qu'il préfère la version Junior à la version.
Ouais, sinon c'est trop compliqué, il y a trop de cartes, oh là là.
Non, mais il a l'air quand même, enfin, ça a l'air sympathique quand même le jeu, tu vois, ça peut être pas mal comme petit jeu, enfin voilà, d'un point sur le téléphone plutôt que de jouer à des bêtises. Moi, j'ai pas testé de faire jouer ma fille sur la tablette. Déjà, elle est pas trop, c'est marrant parce qu'elle montre pas trop d'intérêt pour l'instant pour les jeux vus. Tout ce qui est vidéo, jeux vidéo ou jeux sur téléphone.
Surtout que c'est un jeu de société en plus, là. Alors que tu pourrais y jouer en vrai.
Ouais, je crois qu'elle préfère plutôt les jeux en vrai pour l'instant.
Ouais, parce que quand elle l'envoie balader à travers la pièce, c'est moins grave que si elle balance l'iPad, c'est ça.
Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Je m'en fous un peu qu'elle jette les cartes, mais bon, là, l'iPad, ça sera un peu délicat.
Ok, ben, du coup, on va continuer sur la chronique que tout le monde attend. Avec impatience pour gagner un goodies proxy jeu. Et c'est la chronique « Ceci est un jeu ».
Bravo, vous avez été sélectionné à notre jeu.
Ce n'est pas un calembour au moins.
Non, Majesté, c'est un jeu de mots.
C'est une devinette.
Il va falloir jouer serré.
Ceci est un jeu.
Salut à tous, ici Cargo et vous écoutez le deuxième épisode de « Ceci est un jeu ». Tout d'abord, merci des nombreuses participations à la première énigme, ainsi qu'à tous les commentaires hyper sympas que vous m'avez envoyés. Je suis très pressé de vous en faire découvrir d'autres. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de cette chronique, on commence par la règle.
Ceci est la règle.
Chaque mois, je vous soumets une énigme. Une énigme sur les jeux de société, bien sûr. Le but du jeu est de trouver le jeu de société dont parle l'énigme. L'énigme est une succession d'extraits sonores qui peuvent être des répliques de films, des extraits musicaux, des génériques d'émissions télé, etc., etc. Ces extraits peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, le thème, la mécanique, ou bien même l'ambiance. Un participant sera tiré au sort parmi les gagnants et remportera un goodie proxy jeu et sera cité dans l'émission. Et maintenant, en avant pour la réponse à l'énigme précédente.
Ceci est la réponse.
La réponse était le jeu Galerapagos. Dans ce jeu, les joueurs incarnent un groupe de naufragés.
Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau.
Échoué sur une île déserte.
Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps?
Le but du jeu est de réussir à quitter l'île vivant. Pour cela, ils doivent survivre en allant chercher de l'eau et en pêchant.
Eh bien, bonne chasse et pêche, et que la viande coule à flot!
Ou encore en allant fouiller l'épave du bateau.
Oh ben, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre.
Les naufragés peuvent également aller collecter du bois pour construire un radeau.
Il s'est amarré à un couple de tortues et les a ficelés pour se faire un radeau.
La réussite de cette étape est matérialisée par une pioche dans un sac, une boule noire, et c'est la morsure de serpent et la maladie pendant un tour. En cas de pénurie d'eau ou de nourriture,
à force de faire frugal et puis de crever de faim, dès qu'il tombe sur des murs ou des fraises des bois, il s'enfonce au telbide.
Un vote a lieu pour désigner le naufragé qui mourra de faim ou de soif.
Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Certains objets trouvés dans le bateau servent à changer l'issue du vote. Si des survivants arrivent à construire un radeau qui peut tous les accueillir ainsi qu'assez de vivres pour le voyage, et tout ça avant l'arrivée de l'ouragan, la partie est gagnée. Il s'agit d'un jeu coopératif, mais pas trop. C'est un jeu de Laurence et Philippe Gamelin, illustré par Jonathan Aucomte et édité par Gigamic. Pour 3 à 12 joueurs, entre 20 et 30 minutes, pour des joueurs âgés d'au moins 10 ans. Concernant le vainqueur de la première énigme, le délai d'un mois n'est pas encore écoulé à l'heure où j'enregistre cette chronique. Je ne peux donc pas encore l'annoncer. Pour les fois suivantes, je vais réduire le délai à 3 semaines afin de pouvoir faire le tirage au sort pendant l'épisode suivant à notre duo de présentateurs préférés. Et oui, hein, je suis encore un peu en rodage.
Ceci est l'énigme.
On passe enfin à l'énigme du mois. Attention, on se concentre, et c'est parti.
Oh, et si j'étais riche ?
Eh bien, il s'agit d'un investissement qui a de grosses potentialités de plus-value à très court terme.
Et pour éviter toute difficulté de remboursement, Bingo Crédit invente le prêt qui peut s'étaler sur plusieurs générations pour pouvoir le léguer à vos enfants.
On va mettre 10 ans à rembourser notre dette. Faites pas celui qui a pas compris non plus.
On va pas mettre 10 ans.
Mais si.
Non. S'il nous augmente d'un quart de solde pour le ménage, et qu'on enlève ce qu'on doit de la dette, plus ce qu'il nous prend pour la chambre et la bouffe, on va mettre 116 ans en 2 mois et 26 jours.
J'ai fait les comptes, Alex. C'est un désastre.
Le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins.
Par le sang du Christ, elle est poursuivie par l'ours.
Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite.
Qu'importe la morale en fait d'escroquerie. Oui, trêve de morale et de plaisanterie. Se noieront dans l'écume.
Et voilà, c'est terminé. Je pense avoir corsé un peu l'énigme par rapport au mois dernier, non ? Si vous avez quand même trouvé, vous trouverez un lien pour m'envoyer votre réponse dans le billet du podcast. Vous avez 3 semaines, soit jusqu'au 15 novembre 2019, pour participer. Vous n'aurez la réponse que le mois prochain. D'ici là, jouez bien.
Quoi, c'est pas simple, c'est tout simple.
On peut avoir une deuxième chance.
Quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien.
Bon, on remballe, c'est terminé.
Merci Cargo Toaster pour ce jeu. On a eu la solution, mais pas le vainqueur encore.
Bon, tu l'avais trouvé toi le jeu là, le mois dernier.
Ouais, le mois dernier je l'avais trouvé quand même. Ça,
je... Oui, moi aussi, je vous avais un peu, j'avais un peu exagéré, mais non, si, j'avais bien trouvé... La solution... Enfin, à un moment, j'avais quand même eu une hésitation avec un autre jeu. Et puis, bon, il y a eu quelques indices qui ont achevé de me convaincre.
Ouais, la boule noire, ça aide bien.
Hommage à Thierry Beccaro, quand même. Okay. Tu vois, on aura réussi à placer son nom dans notre podcast, c'est fort, ouais. Ça.
Mais par contre, celui de ce mois-ci, j'ai pas trouvé. Hein.
Moi, j'ai deux idées, dont une que je pense être la bonne. Mais je peux pas le dire, du coup.
Non, tu peux pas le dire. Mais moi, pas du tout. Hein. Faudrait que je réécoute ça au montage. Que je fasse plusieurs passages au montage.
Comme c'est toi qui fais le montage des épisodes, c'est bon, je pense que ça va finir. Tu vas voir un moment où ça va venir.
Ouais, non, mais moi j'ai pas d'idée. On verra le mois prochain si c'était ta bonne idée.
Mais je pense que c'est un petit peu c'est peut-être plus difficile que quand même.
Ouais.
Et toi, il nous a bien appâté et tout avec un truc qui était quand même faisable. Et là, ça y est, on a monté un palier dans la difficulté.
Ouais, c'est toujours comme ça avec les jeux d'argent. Au début, on te dit vas-y, tu peux gagner, et hop.
Ouais,
et au
voilà.
Final.
C'est un peu comme les dealers, tu sais, c'est la première dose est gratuite et après tu vas raquer mon pote. Et alors, ce qui est super cool, c'est que c'est nous qui allons annoncer le vainqueur en direct. C'est
beaucoup d'honneur.
Un petit moment de responsabilité.
Et donc, bon, pour le moment, c'est encore toujours sur le site via le formulaire, mais bientôt, il faudra envoyer un SMS surtaxé, hein, histoire que, comme on a eu beaucoup de réponses...
Ah bah oui, avec ton RIB. Non, avec ton, comment dire, un ordre de... Enfin, tu sais, une autorisation de prélèvement.
Voilà.
Ça serait une bonne technique. Hein.
Bah oui, pourquoi pas. Tu vois, on donne des idées dans la présentation et ensuite les gens ils s'en emparent. Et, par exemple, Hammer, il nous a entendu parler de l'allitération le mois dernier.
Et assonance.
Et assonance, ouais. Et allitération. Et ben, du coup, il en a fait le thème de sa chronique.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Retour en Allemagne ce mois-ci avec un sujet grave et une enquête. Sans concession.
Mais avec des consonnes.
Sur un phénomène de société.
De jeu de société.
De ce côté-ci du Rhin, l'allitération.
Quoi ?
Joueur, d'ailleurs. Ne vous alarmez pas, ne zappez pas cette chronique, vous allez voir où je veux en venir. Mais commençons par le commencement et rappelons d'abord ce qu'est une allitération. Julien, définition.
Allitération, nom féminin. Répétition d'une consonne ou d'un groupe de consonnes dans des mots qui se suivent, produisant un effet d'harmonie imitative ou suggestive. Alors là, j'ai rien compris.
Mais si, tu vas voir. Tiens, lis cet exemple.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Ah, d'accord !
Dans ce célèbre vers, la répétition du son S évoque ainsi de manière très directe le sifflement des serpents et ajoute au sentiment d'inquiétude. Mais l'allitération ne se cantonne pas à la littérature. Tenez, écoutez.
À qui les beaux le débile, à qui les laits le débile, débile c'est beau, débile aussi laid. S'il est un débibo, c'est bien le beau débile.
Ou bien encore. Trêve d'exemple, vous avez compris, même si je suis tenté de rajouter les noms de quelques héros modernes tels que Peter Parker ou Lucky Luke. Et cette figure de style ne se limite pas non plus aux Français. J'aurais même tendance à dire qu'elle est relativement fréquente en allemand. Mais pourquoi ça ? Je sais. Nombre d'entre vous ne sont pas germanophones et vous avez de cette langue une image déformée, pleine de sons qui agressent les tympans et peuplée de mots qui font tous plus de 25 lettres à force de coller des substantifs les uns aux autres. Attention, en voilà un. Geschwindigkeitsbegrenzung. Oui, c'est un seul mot et ça veut dire limitation de vitesse. Alors, à ce compte-là, avec toutes ces consonnes, vous vous dites que l'allitération a effectivement toute sa place dans la langue de Goethe. Et effectivement, il y a plus de consonnes en allemand qu'en français. Un peu plus. Mais pas énormément. En français, les consonnes représentent 56% des phonèmes, en allemand 62%. Et les mots allemands sont, en fait, en moyenne, à peine plus longs que les nôtres, si l'on considère juste le nombre de syllabes. Non, l'explication vient d'ailleurs. Il paraîtrait que l'allitération fut d'abord un élément de la métrique dans la poésie germanique, poésie qui était destinée à être déclamée, la répétition des consonnes donnant clairement du rythme au vers. Elle est ensuite restée en tant qu'élément stylistique, et aujourd'hui son usage est répandu dans les médias, les titres de journaux, la publicité. Quoi de mieux qu'une bonne allitération pour faire concis, retenir l'attention du lecteur, de l'auditeur ou du consommateur, et lui faire plus facilement mémoriser le message. Allez, même si vous ne parlez pas allemand, qu'est-ce que vous pensez de « Geiz ist geil » ? Ça claque, non ? C'est le célèbre slogan d'une chaîne de magasins d'équipement de la maison, qui dit en l'occurrence que l'avarice c'est super, autrement dit, chez nous les prix sont bas. Ou alors je vous propose la devise de chez BMW, « Freude am Fahren », c'est-à-dire le plaisir de conduire. Mais avouez que la VO a quelque chose de compact et d'efficace.
Monsieur, c'est Barban, on n'avait pas dit qu'on parlerait de jeu dans cette chronique ?
Mais j'y viens. Oui, j'y viens, et merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Car un jeu, ça doit se vendre. Alors pourquoi ne pas lui donner un titre qui marque les esprits, quitte à ce que le titre en question n'ait que peu de rapport avec l'expérience de jeu en elle-même, ou même le thème. Les exemples ne manquent pas, même si je n'irai pas jusqu'à dire que tous les éditeurs allemands utilisent ce stratagème. C'est parti pour une petite revue de boîte, et j'y inclurai certains titres qui jouent tout aussi bien de l'assonance, pour simplifier c'est pareil que l'allitération, mais avec les voyelles. On commence avec Kraskarirt, sorti en 2018 chez Amigo, un petit jeu de plis qui n'en est pas vraiment un, très malin et que je vous recommande au passage. Kraskarirt, ça claque, non ? Bon, ça veut dire en gros vachement quadrillé, et le seul lien avec le jeu, ben, c'est que le dos des cartes est quadrillé. Oui, le lien est ténu, on est d'accord. On notera que Amigo est assez coutumier des noms de jeux à répétition, je peux citer Halligalli et Schollenrollen comme autre exemple au hasard. Peut-être s'agit-il ici de mettre en avant des boîtes de jeux dont le format est généralement tout petit, à défaut de pouvoir y mettre un large visuel qui attire l'œil du chaland sur les étagères des boutiques ? Peut-être. Il y a aussi un côté joyeux à l'allitération qui plaît beaucoup aux enfants. Rien d'étonnant donc à retrouver des titres destinés aux plus jeunes et nommés Tier auf Tier, la pyramide des animaux, ou Benis bunte Blumen, autrement dit les fleurs multicolores de Benny, les deux étant au catalogue chez ABBA. Flo Ampo, ça veut dire une puce sur le cul, mais en des termes plus enfantins, est un jeu de course de chiens sorti chez Tsor en 2017 et qui utilise quant à lui des mots d'une syllabe et la rime en haut pour marquer les esprits et surtout faire rire les plus petits. Toujours chez Tsor, le récent Go Gecko Go, nommé au Kinderspiel des Sierras en 2019, vous répète et les consonnes et les voyelles pour être sûr que vous vous rappellerez de son nom. Et pour varier un peu les exemples, je vous offre enfin Schlaraffenaffen de chez Schmidt, où cette fois c'est la rime qui est riche, et évoque les singes du pays de Cocagne, Schlaraffenland en allemand, le tout pour un jeu de course où les singes s'accrochent les uns aux autres pour être le premier à récupérer une noix de coco à sa couleur, si j'ai bien compris le pitch. Mais cela ne veut pas dire que des jeux un peu plus gamer ne se prêtent pas à l'exercice. Vous vous souvenez des Princes de Florence, sortis en 2000 chez Aléa? Eh bien, le titre original, c'est « Die Fürsten von Florence », qui veut dire exactement la même chose, mais avec le son F bien plus présent pour 3 mots sur 4. Et continuons chez le même éditeur avec un jeu fort célèbre, j'ai nommé « Die Burgen von Burgund », autrement dit « Les châteaux de Bourgogne » de Steffenfeld. Et là, ne me dites pas que le titre a un quelconque rapport avec le thème, hein. Non, je suis certain qu'il n'a été choisi que pour son antérim, sorte d'allitération sous amphétamine où plusieurs mots partagent le même début. Die Burgen von Burgund, c'est sûr, pourquoi s'en priver? Mais bon, la traduction littérale en français, ou même en anglais, me paraît bien terne. Ce n'est pas un exemple isolé d'ailleurs. Prenez Die Quacksalber von Quedlinburg, le Kennerspiel des Sierreuses de l'an dernier, du prolifique Wolfgang Warsch, édité par Schmitt, encore eux. Pourquoi donc avoir fait fi de l'allitération pour le titre français « Les charlatans de Belcastel » ? Pourquoi pas plutôt « Les charlatans de Charquemont » ou « Les charlatans de Charsonville » ? Hein ? C'est pas les noms de communes qui manquent en France. Mais pour moi, le pompon de la traduction littérale de trop, c'est encore un jeu de Wolfgang Warsch, dont mon collègue Twin vous entretenait récemment dans l'émission « Jeux du mois », j'ai nommé « Die Tavernen im Tiefental ». Toujours chez Schmitt, décidément. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir simplement traduit le titre littéralement? On se retrouve en France avec « Les tavernes de la vallée profonde ». Mais bon sang de bois, qu'est-ce qu'il leur a pris chez Schmitt? Autant le titre allemand est un peu rigolo avec cette allitération, autant je trouve sa traduction littérale trop longue et dénuée de sens, voire carrément étrange. Bref. Pour finir, restons chez Schmitt, ça devient pathologique, avec le cas inverse, celui d'une localisation d'un jeu français, Medieval Academy, publié par Blue Cocker en 2014. Eh bien, l'éditeur a pris le parti de germaniser le titre et a opté là encore pour une rime riche, puisque la version allemande s'appelle « Die Holde Isolde », soit « La gracieuse Isolde ». Pour le coup, je trouve que ça sonne bien. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas fait là d'inventaire exhaustif. Il y a eu d'autres titres exploitant cette figure de style, et il y a fort à parier qu'il y en aura encore, tant l'allitération est courante en Allemagne, même dans des expressions de tous les jours d'ailleurs. Alors pourquoi donc cette habitude de langage nous est-elle quelque peu étrangère en français? Pourquoi les titres de jeux édités en France n'utilisent-ils pas autant cette répétition de phonèmes? Eh bien, figurez-vous que je n'en sais rien. N'étant ni expert du sujet, ni linguiste, ne me considérant même pas comme un littéraire, l'allitération ludique n'est qu'un lièvre que je lève ici sans livrer à l'auditoire de conclusions sur le sujet. Autant vous dire que si certains d'entre vous peuvent nous apporter leur lumière dans les commentaires, ne vous gênez surtout pas. C'était le thème de la chronique, mais le mot du jour ne sera pas allitération, pour la simple raison que cela se dit de la même manière en allemand. Alors je vous propose plutôt un verbe qui reste dans le même sujet, reimen, qui veut dire rimer. Le mois prochain, on se retrouve pour un autre thème, ou même un autre pays, mais d'ici là, évidemment...
Spiel gut et jouez bien!
Merci Hammer pour cette chronique. Alors Bobby Lapointe avec Takati Takite, très bonne chanson que je vous encourage à écouter. Et oui, les allitérations dans les jeux de société, en allemand oui, et en français non. Genre dans Taverne de la Vallée Profonde, il n'y a plus d'allitération. Alors que dans le nom allemand, il y avait une allitération.
Oui, c'est un peu dommage parce que je pense que ça participe en fait. Enfin, si le nom il a été choisi, il y a bien sûr il y a les mots en eux-mêmes, leur signification, mais il y a aussi un côté un peu pas poétique, mais enfin en tout cas il y a un effet sonore qui est important. Donc ouais. C'est vrai que c'est pas toujours facile de traduire, mais si on arrive à garder un peu de ça ajoute quand même à l'idée, à quelque chose qui est sous-jacent dans l'idée de l'auteur, quoi.
Ouais, bon, c'est surtout après plus pour le son que ça fait pour dans les pubs, enfin voilà, que ça, on se souvient.
Ah oui, donc pour toi c'est purement marketing.
Ah oui, je pense que c'est purement marketing. C'est comme Friedman Freeze qui fait ses jeux qui commencent par F.
Enfin, il s'appelle Friedman Freeze, il a pas choisi, enfin a priori.
C'est... Non mais ça oui.
Ah,
mais
c'est ses parents quoi.
Non mais le nom de ces jeux commence aussi tous par F en allemand et on perd des fois un peu ça à la traduction, mais à la base.
Bah, ils essayent quand même, je pense, hein, de
ouais, garder... Ouais, je crois qu'ils
essayent. Pour la plupart, ils essayent. Moi, j'ai en tête pas mal de jeux qui commencent par un F.
Oui, parce qu'ils ne l'ont pas traduit.
Non. Par exemple, tu vois, il y en a un qui s'appelle Flee, et ils l'ont traduit par Fuit. T'as Frayeur, ouais. T'as Forteresse.
Ouais, mais après, t'as Funkenschlag, et ils l'ont traduit par Megawatt, tu vois.
Ouais, ça, c'est nul. Ouais. Du coup, ils auraient dû l'appeler Fegawatt. Tu vois, ça marche très bien.
Bah oui,
il y a vendredi, fendredi, tu vois, fendredi en allemand. À lever, ça se prend.
Ah là là là. Non, mais on aime bien. On aime bien ça, l'humour de passe-étage. Et alors, on apprend que le mot du, avec le mot du jour, Reimen, ça veut dire rimer. En fait, c'est facile. L'allemand.
Et pas ramer.
faut mettre un à la fin, quoi. Reimen, hop.
Ouais. Ouais, bah tu. Oui, finalement, c'est pas si éloigné.
Oh, bah oui.
Pas éloigné que nous. À part Funkel.
Voilà.
Le truc dont Megawatt qui se traduit pas du tout pareil, sinon c'est à peu près la même chose. Hein.
Bah oui. <c'est... rire> Du coup, sans transition, on va passer plus sérieusement à la chronique Ludo Incognito où Acariatre nous parle des fictions dans le jeu.
Ce mois-ci, je me sens rajeuni de 10 ans. Alors plutôt que de vous partager mes petites rancunes, je vais aller de l'avant et vous proposer un nouveau format de chronique bien plus enthousiaste. Le savez-vous? Pendant que nous, les joueuses, batifolons gaiement dans les vastes espaces ludiques, dans l'ombre, des universitaires, des chercheuses, nous observent et tentent de comprendre ce qui nous anime. Je ne vais pas revenir ici sur les nombreuses raisons qui poussent à observer le jeu avec sérieux. Je vous sais convaincu. Je vais plutôt plonger dans le vif du sujet et décortiquer avec vous un travail de recherche par épisode. On commence tout de suite, accrochez-vous. Ludo Incognito, je cherche toujours. Posons d'abord les enjeux de l'épisode d'aujourd'hui. L'une des caractéristiques du jeu est de pouvoir créer une réalité alternative, un espace fictionnel, dans lequel les joueuses vont vivre des aventures et réaliser des actions en marge du monde réel. Le jeu et la fiction vont ainsi faire vivre des émotions fortes. Vous en êtes toutes les témoins et les protagonistes. Et c'est sans doute ce que vous recherchez d'ailleurs dans ces expériences. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel était ce pouvoir magique de la fiction? Comment une situation visiblement virtuelle et sans conséquences peut entraîner des émotions aussi fortes et aussi réelles? Pourquoi donc tremble-t-on devant un film, pleure-t-on dans un livre et jubile-t-on dans un jeu? Des éléments de réponse nous sont apportés par l'article que je vais vous présenter aujourd'hui. Representation, Reality and Emotions Across Media, publié par Jonathan Fromm dans la revue Film Studies en 2006. Jonathan Fromm est actuellement professeur assistant dans l'université Lingnan à Hong Kong, et le lien vers l'article en question, écrit en anglais, est bien sûr disponible dans le billet associé à cet épisode. Dans son article, Jonathan Fromm commence par critiquer plusieurs théories qui tentent de répondre à cette apparente contradiction d'émotions réelles face à un média fictionnel. Il intègre sous cette appellation de médias fictionnels les films, les livres, la peinture et les jeux vidéo, mais n'y parle pas de jeux de société, faute de goût que nous lui pardonnerons. La théorie la plus répandue est celle qui prétend que la fiction nous fait temporairement croire, malgré nous, à ce qu'elle nous montre. Je vis le film comme si ce qui était montré à l'écran était réel et je réagis comme si j'étais dans le film. Une autre théorie prétend que nous nous plaçons volontairement dans un état de croyance envers la fiction. Autrement dit, nous faisons semblant de croire à ce que nous montre la fiction, provoquant ainsi des réponses émotionnelles identiques à ce que provoquerait la réalité. Mais ces théories basées sur une croyance subie ou forcée ne tiennent pas. Si nous étions même très temporairement convaincus que le monstre à l'écran était un vrai monstre, nous ne resterions pas assis dans notre canapé. A l'inverse, si nous étions seulement en train de feindre d'y croire, nos émotions ne seraient pas aussi fortes. Une troisième théorie, avancée par le philosophe Noël Carroll, se débarrasse du problème de la croyance en stipulant qu'il suffit de penser à une situation pour éprouver des émotions sans avoir besoin d'y croire. Je pense à ce que ce monstre fait subir au personnage et cette pensée me terrifie. Mais là aussi, cette théorie n'est pas pleinement satisfaisante. La fiction et le jeu nous placent dans des états émotionnels que nous n'aurions pas atteints en pensant de nous-mêmes les situations dépeintes. Le média, le format de la fiction, apporte bien quelque chose à l'expérience. Jonathan Fromm insiste sur ce point important. Toutes ces théories semblent oublier le contexte et la forme de l'expérience fictionnelle. Elle n'explique pas pourquoi les émotions sont aussi différentes entre un film regardé au cinéma ou sur son téléphone portable, entre un jeu vidéo joué seul dans noir et un jeu de rôle sur table à plusieurs. Pour dépasser cette contradiction, Jonathan Fromm propose de ne pas voir l'activité mentale comme un tout unique et cohérent. Au contraire, il faut accepter le fait que plusieurs de niveaux de pensée parallèles peuvent coexister au même moment dans le cerveau. Jonathan Fromm n'est évidemment pas le premier à introduire cette idée, mais il l'applique ici aux réponses émotionnelles de la fiction et du jeu. Avec cette approche d'une pensée à plusieurs niveaux, il est bien plus simple d'expliquer les réactions émotionnelles suscitées par un film d'horreur, par exemple. Une partie du système mental du spectateur réagit avec terreur à la vision des grandes dents du monstre à l'écran. Une autre partie de l'esprit a conscience qu'il s'agit d'une représentation et nous empêche de nous enfuir à toutes jambes. Dans le même moment, une troisième partie se pâme dans cette émotion forte. Une quatrième éprouve de l'empathie pour les personnages voués à être dévorés. Une dernière, enfin, apprécie le réalisme des effets spéciaux et le savoir-faire du réalisateur. À chaque instant, un millefeuille de pensées, de réactions et d'émotions, en apparence contradictoires, s'active sous votre crâne. Dans ce schéma, chaque niveau de pensée ne s'inquiète pas de savoir si ce qu'il perçoit est réel ou non. Il se contente de réagir comme il est programmé à le faire. Comme il le ferait d'ailleurs de la même manière dans une situation réelle. L'analyse de ce qui est réel ou fictif n'est enclenchée qu'à un niveau plus global, qui met côte à côte toutes les informations collectées. Analyse qui permet d'adapter la réponse globale à apporter à la situation, une fois correctement jugée. Jonathan Fromm nomme ce modèle « théorie de l'illusion hybride ». Ce modèle est utile pour comprendre les spécificités de chaque type de fiction. En fonction de leur forme, de leur langage et du contexte de l'usage, chaque média va plus particulièrement faire réagir certains de ces niveaux de pensée. Un film sur grand écran saura par exemple stimuler la lecture visuelle instinctive du spectateur. Un livre saura davantage faire partager la vie intérieure de ses protagonistes. Le jeu provoquera un sentiment de fierté ou de déception. Une même histoire, traitée par ces différents supports, provoquera donc une palette d'émotions très différente. Je m'arrête ici pour la lecture de cet article très dense, mais je vous invite à le lire en entier. Je tiens aussi à signaler que j'ai tenté d'en synthétiser le propos, mais que je ne suis malheureusement pas à l'abri d'approximations, voire pire. J'ai aussi volontairement laissé de côté tout le second point de l'article qui détaille un modèle de catégorisation des émotions. Je le trouve moins pertinent, moins concret et trop complexe à expliciter à l'audio. Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une proposition de modèle, qui cadre plus ou moins bien avec des expériences vécues, mais qui n'a pas valeur de loi et ne peut être définitivement prouvée. Mieux vaut le voir comme une grille de lecture qui apporte ses propres explications, mais aussi ses propres limites, à ce qu'on constate au quotidien. Je vais maintenant résumer ce que je retiens de cette recherche et pourquoi elle a retenu mon attention, et la rapprocher enfin des jeux de société qui nous tiennent à cœur. Cet article répond déjà à la question clé de l'immersion. Comment ces fictions peuvent-elles autant nous emporter et nous faire voyager ? Simplement, donc, en s'adressant au cerveau dans plusieurs niveaux à la fois. Certains niveaux agissant comme face à la réalité, d'autres reconnaissant et appréciant son caractère fictionnel. Pour mon plus grand plaisir, on retrouve ici l'idée d'une conscience à plusieurs étages qui est pour moi la définition même du jeu. Toute fiction devient ainsi un jeu avec la fiction, croire sans y croire, à la fois marionnettiste tout-puissant et naïve marionnette. Cet article répond aussi au constat personnel d'une immersion bien moins forte dans la fiction d'un jeu de société que dans celle d'autres médias. En effet, dans le jeu de société, les histoires m'emportent sur un tout autre plan, beaucoup plus conscient, que ne le ferait un film, un jeu vidéo ou même un livre. Si j'ai le cœur qui bat la chamade, c'est dans l'espoir de réussir un coup brillant, ou parce que la partie va s'emporter sur un jet de dés, mais pas parce que je crains pour la vie de mes personnages ou pour le sort du monde. Le simple format du jeu, ses morceaux de carton, les autres joueuses, tout ce qui se passe autour de la table et perturbe mon champ de vision, m'écarte d'une immersion complète dans l'histoire. Pour le dire autrement, je vibre beaucoup plus pour l'histoire de la partie que pour l'histoire du jeu. Jonathan Fromm apporte une réponse à cette palette différente d'émotions. D'après son modèle, le jeu de société est un média très peu adapté pour déclencher des réponses émotionnelles dans certains niveaux instinctifs du cerveau. Le dispositif du jeu de société lui-même ne permet pas d'englober et surcharger tous les sens du joueur. Le jeu de société est en revanche particulièrement adapté pour faire vivre des émotions liées aux mécaniques de jeu et aux interactions sociales. Tout aussi riche, mais sur un autre plan fictionnel. Eureka ! Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu et ne se révèle pas trop indigeste à l'écoute. Faites-moi part de vos commentaires et envies pour les prochains épisodes à venir. Et d'ici là, en apnée ou en surface, jouez bien.
Merci à Cariatre pour ce décryptage de travail de recherche.
Alors déjà, il est de meilleure humeur que le mois dernier. Faut quand même le noter, c'est bon signe.
Ouais, c'est. Bah, je pense que si t'es énervé comme ça pendant toute une saison, les gens oseront plus l'aborder sur les salons et tout. Faut qu'une fois oui, sur deux, il soit sympa.
Oui, en fait, ça, il va nous faire alterner les chroniques de mauvaise humeur et celles le plus de questionnement. Mm. Mais alors, ça, c'est assez marrant parce que le thème qu'il aborde, c'est un thème qu'on avait plus ou moins déjà, on avait un peu discuté dans le hors-série de la Team Paris, notamment voilà sur tout ce qui est les fictions et le fait que le, enfin c'était une des, notamment enfin lui il défendait ça que le jeu de société n'est pas encore capable de déclencher des émotions chez les joueurs aussi fortes que d'autres œuvres artistiques, enfin comme le cinéma, la littérature, et notamment parce qu'il y a il y a plus de distance en fait entre le joueur et son avatar ou son personnage ou ce qu'il incarne dans le jeu et lui-même que dans d'autres médias où tu as beaucoup plus de tu as beaucoup plus de processus d'identification. Donc là il revient aussi sur des aspects enfin plus scientifiques en fait de ce qui se déclenche aussi si je comprends bien dans notre cerveau comment les émotions se déclenchent et les zones que ça active lorsqu'on joue ou lorsqu'on se livre à d'autres activités de loisirs comme voilà écouter de la musique, regarder un film, lire.
Ouais, bah, je pense que après quand tu regardes je sais pas si tu peux plus t'immerger là quand tu écoutes quelque chose par exemple au casque souvent tu es plus immergé, tu es plus proche de qu'un jeu de société, tu as le toucher. Mais c'est quand même plus loin que quand tu regardes un film, tu as plus une sensation englobante avec je trouve que bah après, et du coup tu es moins dans l'histoire.
Bah après je sais pas, tu vois je sais que selon les activités c'est pas du tout les mêmes zones qui s'activent et qui sont qui s'activent dans le cerveau selon ce que tu fais. Donc j'imagine que peut-être que quand tu joues, c'est pas du tout des zones de plaisir qui s'activent, enfin j'en sais rien, ou liées à ce genre de sensation, mais plutôt du raisonnement. Enfin je suis pas non plus une grande pro des neurosciences. Mais par exemple,
quand tu réfléchis, ouais, je sais que c'est pas la même zone que...
Tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais moi je me souviens d'un exemple, c'était sur les langues. Nous, par exemple, si tu me parles, moi je vais entendre ta voix, ça va activer dans mon cerveau la zone du langage.
Ouais.
Si j'entends de la musique, ça va activer une autre zone. Et il y a des langues, par exemple, comme le chinois, où si moi j'entends du chinois, ça va activer dans moi, ma zone cérébrale qui va s'activer, c'est celle de la musique. Alors que pour une personne qui a une langue maternelle chinoise, c'est bien la zone du langage qui va s'activer. Donc il y a aussi, tu vois, c'est pas du tout les mêmes associations de zones qui va s'activer selon aussi des différences.
Ouais.
Enfin voilà, nous on va pas l'associer de la même manière parce que notre langue elle repose pas forcément sur les mêmes la même façon de prononcer, etc. Donc moi j'avais trouvé ça hyper intéressant. C'est pas exactement le sujet, mais c'est pour dire aussi que peut-être selon les personnes, tu vas pas activer les mêmes zones dans le cerveau, ouais. Quoi. Donc, s'il y a des spécialistes dans nos auditeurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que je trouve ce sujet totalement passionnant.
Ouais.
On dit sûrement beaucoup de bêtises parce que moi, j'y connais pas grand chose. Enfin, j'ai pas du tout une formation scientifique, mais.
Ouais, je ne suis pas non plus neuroscientifique. Ma seule expertise, c'est que j'ai un cerveau. Enfin, je crois. Mais
Et que tu actives de temps à autre.
Voilà, j'active certaines zones. Mais pas trop, hein. faut pas trop se fatiguer.
Non, mais du coup, je me demande si c'est pas possible que tu vois d'un individu à l'autre, ça puisse. Bon, là, c'est une différence qui est liée à une différence presque culturelle, enfin, dans l'apprentissage du langage. Mais je me demande, est-ce que selon les individus, ça pourrait aussi, et selon les pratiques, ça pourrait varier ce genre de choses
ou bah oui, je pense.
Qu'on ait des gens qui vont pas du tout être sensibles, enfin, qui vont pas du tout avoir ce genre d'expérience, en fait.
Bah oui, je pense parce que certains aiment les jeux de gestion où il faut réfléchir, alors que d'autres disent, bah non, moi je suis là pour jouer, je suis pas là pour calculer le meilleur coup à faire à chaque fois, quoi.
Ouais, mais là, on est dans le domaine du goût. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu contrôles pas, en fait. Ce que ça naturellement induit, ce que tu vas mobiliser comme capacité, tu vois, cérébrale pour décoder une information. Enfin, je sais pas. Donc, s'il y a des spécialistes dans les auditeurs, venez nous éclairer.
On va demander à Jonathan Fromm de nous laisser un petit commentaire. Hein, donc, l'auteur de l'article commenté par Acariat.
Qui nous écoute probablement.
Bah oui, je pense. Bah, attends, hop, ah, je crois que c'est lui qui nous appelle. On va décrocher cet appel, voir si c'est lui qui nous appelle d'ailleurs.
SAV des jeux de société, bonjour.
Oui, bonjour. Je vais à Essen bientôt.
Ah, ben bravo. C'est votre première fois?
Oui, justement, et j'ai besoin de conseils.
De conseils?
Ah oui, pour bien réussir mon Essen.
Vous voulez dire en plus des réponses à la question qui a déjà été posée 1000 fois sur Internet?
Pardon?
Je disais que vous pouvez trouver des réponses sur Internet, mais surtout prenez des bonnes chaussures, de l'argent liquide et préparez votre liste de jeux à voir.
Ok, très bien, merci.
Et jouez bien! SAV des jeux de société, bonjour.
Bonjour, ici le boss.
Le boss?
Oui, le boss. Et vous allez avoir des problèmes, hein?
Des problèmes? Comment ça, des problèmes?
On ne dit pas au client d'aller voir sur Internet. Il paye 2 euros la connexion. 50 centimes la minute pour appeler. Gardez-les en ligne! Cet appel sera déduit de votre salaire.
Jouez bien! SAV des jeux de société, bonjour.
Dites-moi, connaissez-vous une certaine version Simpson?
Oui, oui.
Oh, punaise, je vais aller m'acheter des donuts et une bière d'œuf pour fêter ça.
Mais c'est qui, là?
Ben, c'est Homer.
Quoi? Non, sérieux? Le vrai Homer? Eh, dites-moi, je pourrais y jouer avec vous?
Mon garçon, si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, faut travailler. Maintenant, ferme-la. Moi, nous, c'est les numéros du loto.
Ok, ben, jouez bien. SAV des jeux de société, bonjour. Mais c'est qui? Ah, mais c'est Charlie! Charlie Lecoq! Ah oui, non, mais c'est Dame Jarture, évidemment. Et tu joues à quoi? Ah bah oui, à Poule-Poule. Et tu le trouves comment? Ouais, je suis bien d'accord. Ah ouais, t'en peux plus, tu voudrais témoigner pour dire au renard qu'il arrête de vous bouffer. Ouais, ok, très bien. Bon bah écoute, c'est fait, je passe le message. Eh bien, côte, alors. SAV des jeux de société, bonjour.
Salut mon chou, c'est Tata Suzanne.
Ouais, salut Tata, alors, comment ça va?
Oh, ça va bien. On a fait une soirée buzzerfucker en exclu. Je peux te dire qu'il n'y a pas que le buzzer qui l'a été.
Été quoi?
Bah, tu vois, quoi.
Non, je vois pas trop, là.
Attends, tu comprends pas l'anglais? Fucker, fuck, baise.
Oui, tata, c'est bon, j'ai compris. Mais merci, hein.
Ouais, bon. Tu viens manger dimanche?
Oui, à dimanche, tata.
SAV des jeux de société, bonjour.
Bonjour, c'était pour vérifier, dans 7e continent, on peut avoir combien d'objets par personnage?
Alors, pour un perso normal... Attendez, je vérifie... C'est 3!
3, ok, mais 4, ça passe aussi?
Comment ça, ça passe aussi? 3, c'est 3!
Non, mais ça va, c'est comme les dés. Si on fait 5, c'est comme si on avait fait 6.
Vous êtes qui à la fin, là?
Bah voyons, mais c'est moi, super connasse! Celle qui veut pas perdre dans les jeux coop, celle qui triche, celle qui cache les cartes sous la table. Super connasse, eh oui, c'est moi! Non mais ça va, c'est comme les dés, si on fait 5, c'est comme si on avait fait 6.
Jouez bien.
Jouez bien.
Ah bah non, c'était pas lui, c'était encore une fois le SAV. Ouais, on vous met le SAV en deux fois, hein, parce que sinon vous ne supporterez pas. ne faites pas ça chez vous, écoutez tout d'un coup, c'est fait par des professionnels.
Non mais c'est... En même temps, les appels tombent pas tous forcément en même temps, hein. C'est comme ça. Hein.
Après notre blabla crotte, c'est mieux de mettre un peu de SAV pour relever le niveau.
Oui, voilà, exactement.
Et alors, pour finir ce mois-ci, on a le pionfesseur qui va nous parler de jeux qui n'existent pas.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Lorsque vous êtes scénariste et que vous souhaitez rendre crédible un univers de fiction, il est important de le faire fourmiller de détails car c'est en général ce que les fans adoreront. Ainsi, nombre d'univers d'œuvres cultes aujourd'hui ont leur propre géographie, leur propre histoire et surtout leur propre culture. Les habitants de ces univers ont leurs livres, leur musique et surtout leurs jeux. On va donc s'intéresser aujourd'hui à tous ces jeux de société fictifs qui ont été créés de toutes pièces par des auteurs. Univers fort rime donc souvent avec jeu de société fictif. Ce genre d'univers se retrouve dans deux grands genres majeurs de la fiction, la fantasy et la science-fiction, que l'on retrouvera notamment beaucoup dans les œuvres des années 80. On constatera souvent deux grands styles de jeux parmi les jeux fictifs de ces univers. Le premier style, ce sera les jeux abstraits, bien souvent dérivés des échecs, comme par exemple les échecs tridimensionnels de Star Trek, le Sivas dans l'univers du Trône de Fer, ou le Gungi de Hunter x Hunter. On peut également citer le Paicho dans Avatar le dernier maître de l'air, qui lui est plutôt une sorte de mix entre les échecs et le Go, ou le Sud dans l'univers du Disque Monde, qui est très similaire au Nefatafl, un vieux jeu abstrait scandinave. Et décidément, j'ai beaucoup de choses à prononcer dans cette chronique, et je suis pas sûr que je les prononce correctement, mais bon, c'est pas grave. Ces jeux sont souvent considérés dans le scénario comme nobles et nécessitant une grande réflexion, parfois pour montrer ainsi une sorte de duel d'intelligence entre deux personnages. Pas étonnant qu'ils soient donc inspirés des échecs, puisque c'est à peu près l'image que notre société a de ce jeu. Le deuxième style de jeu que l'on retrouvera le plus souvent, ce sera les jeux de cartes, souvent à l'image des jeux de cartes traditionnels que l'on retrouve dans la réalité. On peut ainsi citer le Sabacc dans Star Wars, le Tall Card dans Firefly, le Pyramid dans Battlestar Galactica, ou encore le Cripple Mr. Onion dans le Disque Monde. Ici encore, ces jeux sont sociologiquement semblables aux nôtres, car ils représentent selon leur style soit des jeux populaires, soit des jeux impliquant des paris mettant en jeu une certaine somme d'argent. C'est un peu d'un côté la belote et le tarot, et de l'autre le blackjack et le poker. Ça fait donc d'un côté les genres de jeux d'échecs nobles, et de l'autre les jeux de cartes populaires. Bon, c'est pas très varié, mais bon, les scénaristes, ils s'y connaissent pas forcément en jeux de société, donc rien de très étonnant là-dedans. On pourra noter quand même quelques exemples qui sortent du lot, comme le Dejarik dans Star Wars, qui ressemble plus à un wargame, ou encore le Triple Triad dans Final Fantasy VIII, qui est une sorte de morpion évolué beaucoup plus tactique. Ça fait déjà pas mal d'exemples dans de la fantasy et de la science-fiction. Essayons d'aller voir un peu ailleurs. Déjà, dans beaucoup de séries télé, on trouvera souvent un épisode dans lequel les personnages joueront à un jeu fictif, voire même l'épisode entier tournera autour de ce jeu. On trouvera alors des exemples un peu plus variés de jeux, comme l'épisode Cards Wars d'Adventure Time, où il joue à une sorte de jeu de cartes à collectionner magique, Anguille et Escalier dans Bob l'Éponge, une sorte de dérivé de Serpent et Échelle, ou bien The Cones of Dunshire dans la série Parks and Recreation, un jeu volontairement très compliqué qui a été réellement réalisé par Mayfair Games en tant que commande pour la série, et dont l'unique exemplaire était jouable lors de la Gen Con 2014. Tous les jeux que j'ai cités jusque maintenant servaient essentiellement à s'ancrer dans un univers pour le rendre crédible et s'ajouter à son folklore, parfois en étant un élément scénaristique important et parfois non. Certaines œuvres vont bien plus loin et ont une histoire qui tourne essentiellement autour d'un ou plusieurs jeux. Dans la littérature, l'œuvre la plus connue de ce type est sûrement Jumanji, ou sa petite sœur Zathura, où ici le jeu de société s'immisce dans la réalité. Un usage qui fonctionne également bien avec des œuvres d'épouvante comme la nouvelle Hobgoblin, où c'est le jeu de rôle qui va s'immiscer dans la vraie vie, ou dans Beyond the Gates, un film d'horreur où les protagonistes jouent à une sorte d'atmosphère, un jeu d'horreur utilisant une VHS, mais qui finira là encore par franchir la barrière des deux mondes. De manière générale, les œuvres qui tournent autour de jeux aiment bien donner à ces jeux des enjeux très très forts pour créer une tension dramatique. On peut prendre pour exemple beaucoup de mangas comme Kaiji, Liar Games ou Gambling School, où les protagonistes vont jouer à plusieurs jeux en misant de grandes sommes d'argent ou parfois même leur vie. Ces œuvres ont en particulier le mérite de nous proposer des jeux très créatifs qui vont bien au-delà du simple dérivé des échecs ou de jeux de cartes. Dans la littérature de science-fiction, on trouvera également beaucoup d'histoires tournant autour de jeux comme L'Homme des Jeux où il joue au jeu d'Azad, un dérivé d'un jeu d'échecs qui a des implications politiques. The Chessmen of Mars qui lui date de 1922 où les personnages jouent au Jetan, tient donc encore un dérivé des échecs mais où les pièces sont des vraies personnes se battant à mort pour le jeu. Les joueurs de titans du célèbre Philip K. Dick où un jeu de dés et de bluff est le centre de beaucoup d'enjeux financiers, sociaux et politiques. Master Play, où les protagonistes jouent à des sortes de wargames pour résoudre des conflits plutôt que d'utiliser des vraies forces militaires. Et je citerai enfin Interstellar Pig, un peu similaire à Jumanji, vu que c'est de nouveau un jeu qui s'immisce dans la réalité, mais qui est intéressant puisque l'auteur admet s'être inspiré de rencontres cosmiques pour créer le jeu fictif de son histoire. Dans la science-fiction, on se retrouve tout de même avec beaucoup plus souvent des enjeux politiques autour de ces jeux, ce qui semble assez normal puisque c'est un genre littéraire qui est lui-même très politique. Pour finir sur les œuvres qui tournent autour d'un jeu, je citerai deux ovnis. Tout d'abord, Le Testament d'un excentrique de Jules Verne, qui, puisqu'il est sorti en 1899, est le plus ancien roman que je citerai dans cette chronique, où là ce sera un vieil homme richissime qui décide de léguer sa fortune au travers d'une sorte de jeu de loi grandeur nature au travers des États-Unis. Et enfin, Le Jeu des Perles de Verre, qui lui est paru en 1943 et qui a même reçu un prix Nobel de littérature. Ici, le jeu en question est une sorte de métaphore complexe de la culture. Il s'agit d'un jeu dont les règles formelles ne sont pas écrites et qui évolue au cours du temps, intégrant tous les champs de la pensée et de la culture, une manière poétique et philosophique de traiter de sujets de société. Toutes ces histoires autour des jeux les utilisent pour exprimer des sentiments. Un jeu qui fait peur, un jeu qui vous fait voyager, un jeu qui vous fait réfléchir. Il nous reste à voir un genre bien populaire, la comédie. Beaucoup de sketchs ou de séries aiment se moquer des jeux, le plus souvent en créant des règles volontairement absurdes et inexplicables pour créer des situations comiques. Je vous ai parlé de Cons of Dunshire dans Parks and Recreation tout à l'heure, mais en France, on connaît bien évidemment le Camoulox de KD Olivier, lui-même dérivé du sketch Simple comme bonjour des inconnus, ou encore les jeux de Perceval dans la série Camelot. À l'étranger, ce sera le Fizzbean dans Star Trek, ou bien l'émission de radio Mornington Crescent qui nous offriront un florilège d'humour absurde en faisant jouer des personnages à des jeux impossibles. C'est le modèle le plus courant, mais l'on pourrait très bien imaginer de vraies parodies de jeux, se moquant des travers des jeux de société bien réels. Le seul exemple que je connaisse est Dungeons, Dungeons and Dungeons dans un épisode de Gravity Falls, parodie évidente des jeux de rôle type Donjons et Dragons, et j'avoue que j'apprécierais voir plus de parodies ou d'hommages de ce genre. Avant de conclure, il nous reste une dernière catégorie à observer, les mises en abyme et autres jeux transmédia. En effet, pas mal de jeux proposent en eux-mêmes un jeu fictif, jouable ou non. C'est souvent le cas dans les jeux vidéo où le jeu fictif apparaîtra comme un mini-jeu, comme c'est le cas du Caravan dans Fallout New Vegas ou le Gwent dans la série The Witcher. Beaucoup de jeux fictifs, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, finissent par avoir une adaptation réelle, soit créée par des fans, soit commercialisée officiellement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Triple Triad dans Final Fantasy VIII, il a connu son adaptation en jeu de société. Le Gwent est de son côté devenu un jeu vidéo à part entière de The Witcher. Et on peut citer l'exemple ayant eu le plus de succès, le manga Yu-Gi-Oh! Qui tourne essentiellement autour d'un jeu de cartes à collectionner fictif, a fini par devenir un jeu dans la vraie vie qui a rencontré un franc succès. Parlons enfin de deux derniers jeux fictifs, cette fois-ci dans des jeux de société. Dans le jeu de société Fallout, l'un des textes d'ambiance évoque un jeu qui s'appellerait SynthNet Rumor. Mais malheureusement, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne, c'est juste une citation comme ça. Et deuxième jeu, cette fois-ci bien plus particulier, Millennium Blades, qui est un jeu de société où vous incarnez des personnages jouant à un jeu de cartes à collectionner fictif. Probablement la meilleure mise en abyme à l'heure actuelle que j'ai pu trouver dans du jeu de société. Bien, et donc qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Il existe autant de manières d'inclure un jeu de société dans une fiction que de types de fiction différentes. Votre jeu fictif pourra être drôle, parodique, un hommage, un jeu de stratégie, un jeu politique, un jeu effrayant ou plein d'autres choses encore. L'avantage de la fiction est qu'elle ne fait ressortir que les aspects fascinants du jeu. Il n'y a pas besoin de créer réellement un système de règles ou d'équilibrer votre jeu puisqu'il n'existe pas. Il n'est donc théoriquement pas amené à être joué réellement. Certains jeux finissent quand même par exister dans la vraie vie, avec plus ou moins de succès. Tout dépend en fait de si l'auteur souhaitait réellement créer un jeu ou s'il souhaitait simplement l'utiliser pour compléter le folklore de son univers ou simplement transmettre une émotion. Les exemples restent néanmoins très tournés vers des jeux classiques et il serait tout de même agréable de voir à l'avenir plus de jeux dérivant de jeux de société plus modernes. Et vous, connaissez-vous d'autres exemples de jeux fictifs? Que pensez-vous de l'intégration de jeux de société dans des œuvres de fiction? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous mets également dans le billet la liste de tous les exemples que je vous ai cités dans cette chronique. Et d'ici là, jouez bien.
Merci le Pionfesseur pour cette analyse. Alors, moi je connaissais les films qui n'existaient pas, genre Red is Dead, les films dans les films. Mais c'est vrai que les jeux de société qui n'existent pas...
Ou les livres qui n'existent pas.
Oui, aussi.
Bah, t'as un peu ça avec le roi en jaune, puisqu'on parle toujours d'une pièce que tout le monde a lue, mais que le lecteur, lui, ne lit pas. D'ailleurs, il vaut mieux pas parce que tu deviens fou, sinon.
Ouais.
Mais,
Ou le Necronomicon aussi.
Exactement. Mais j'ai pensé aussi qu'il y avait un jeu de société dans lequel il y a un jeu à l'intérieur du jeu de société. En fait, je sais pas si tu connais, enfin tu, il y a un jeu qui s'appelle Exodus Seeders from Ceres. Et il me semble que l'auteur a inventé dans, parce que c'est un jeu à concept, enfin il y a plusieurs épisodes un peu dans le jeu, enfin il y a plusieurs, c'est une sorte de série de jeux. Et il me semble que dans le background de ce jeu de société, il a inventé un jeu de cartes auquel jouent les personnages que tu incarnes dans le jeu de société. Ouh. Et du coup, il a fait un jeu à part qui est ce jeu de cartes.
C'est Inception, là, de Inception du jeu de société.
Ouais. Voilà. Donc, et il me semble qu'il avait été, ce jeu de cartes, il avait été, comment dire, présenté dans un des épisodes du Défossé consacré, quand ils étaient à Cannes, justement, ah. sur ça. Et j'avais trouvé ça assez fort, quand même. C'est-à-dire que tu crées tout un univers pour un jeu, et à l'intérieur de ça, tu crées un autre jeu qui devient un jeu à part entière. Enfin, c'est bon, un peu comme le Gwent dans le jeu vidéo, tu vois, c'est un peu, sauf que dans un jeu vidéo, tu peux voir tes personnages à l'écran qui vont jouer à un autre jeu. Mais dans le jeu de société, tu vas pas voir tes meeples jouer à un autre jeu. Ou alors, c'est que t'as beaucoup, tu prends des substances illicites, peut-être.
Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples. Oui. Moi, je connaissais le sabacc de Star Wars. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que je ne connaissais pas tous ces jeux qui n'existent pas.
Moi, je pense beaucoup, enfin, en plus, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais au Gwent dans le Witcher, qui est effectivement un jeu auquel tu joues dans le jeu, puisque tu rencontres régulièrement des personnages avec lesquels qui te proposent de faire des parties. Ouais. Et puis, tu as même une quête annexe qui est un tournoi, en fait, tu fais le tournoi de Gwent. Et qui après était sorti en jeu à part entière.
Ils avaient déjà sorti le jeu après. Comme ça a eu du succès.
De mémoire, d'ailleurs, tu pouvais à un moment aussi acheter le jeu de Gwent en version physique.
Ah, ça, j'avais pas suivi ça. Bah oui, ça peut être sympa ça.
Ouais. Donc c'était assez canon, j'avais trouvé.
Si tu veux vraiment être Witcher, tu vois, que tu.
Et voilà, mais c'était. Et ce qui était très drôle, c'est quand tu passes du temps à jouer au jeu dans le jeu, c'est assez. c'est un peu. Y a vraiment... Là, c'est vraiment dans la mise en abîme.
Tu vas jouer à The Witcher ? Non, non, je vais juste faire 2-3 parties de Gwent. Ah, ok.
Oui, c'est ça, c'est les jeux où finalement tu passes plus de temps à faire autre chose que le jeu en lui. Mais après, dans les films, oui, il y a quand même pas mal d'exemples. C'est un peu comme aussi les sports, hein. Enfin, tous les films qui ont inventé, où il y a un sport qui est inventé, typiquement Harry Potter et le Quidditch, ouais, bien sûr. À ne pas essayer de reproduire chez vous, vous ne vous envolerez pas.
si, il y a des gens qui jouent au Quidditch. Ils n'ont pas de balai magique, donc c'est un peu ridicule.
Mais voilà, ils n'ont pas de balai. Donc, sans balai, je pense que c'est vachement intéressant quand même. Enfin, balai qui vole, bien sûr, parce que tu peux toujours avoir un balai.
Ah, mais ils ont des balais, ouais, ils ont les balais, mais ils ne volent pas, quoi. Ils courent avec les balais.
Mais est-ce que c'est vachement moins facile en même temps de courir avec un aspirateur, je pense aussi.
Ouais. C'est vrai que.
Je pensais aussi au sport, un vieux film qui s'appelle Rollerball. Donc, ouais. Qui décrit un sport assez très très violent et qui m'avait beaucoup marqué. Mais bon, voilà, il a des. Mais après, il y avait plein de trucs. Moi, je m'aperçois que dans Star Wars, j'ai jamais fait gaffe au fait qu'il jouait à un jeu dans le jeu, tu vois.
Si, en fait, on le voit beaucoup on en parle beaucoup dans Solo, le film Solo sur Han Solo. Parce qu'il gagne le Faucon Millennium au sabacc. C'est pour ça qu'on en parle, hein, sinon.
D'accord. Non, mais j'ai pas vu Solo. C'est pour ça que ça m'a manqué complètement.
Ah, voilà, ça te manque dans l'univers étendu de Star Wars. On peut finir sur Star Wars.
Oui.
On a commencé avec Batman, on peut finir sur Star Wars. Ça, on a balayé un peu la pop culture.
Ouais.
Et donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter et sur Facebook.
Alors bien sûr, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast. Vous pouvez bien sûr aussi nous mettre des commentaires. Vous avez vu qu'on adore ça. On prend quand même toujours le temps de revenir dessus. Et puis évidemment, parlez de nous autour de vous. Et donc, on se retrouve le mois prochain. Pour les chroniques 111, donc là c'est pas le chiffre du démon, je sais pas ce que quoi, c'est 111. Je ne sais pas ce que ça signifie Non, si vous savez, dans la numérologie, je vais faire peut-être des recherches poussées après la cryptozoologie, tu vois. On voit que mes connaissances scientifiques sont de plus en plus pointues. Je vais vous faire tous les domaines non scientifiques possibles.
C'est de l'astrologie le mois prochain.
Oui. Attends. Je pourrais te faire un podcast juste là-dessus maintenant, tu vois. Tarot, numérologie, je pense que je vais peut-être... Mais après, il faut un numéro payant, c'est l'intérêt d'ailleurs.
Et le numéro payant, ce sera le 111.
Exactement. Et puis voilà, en attendant, surtout, bon Essonne si vous êtes à Essonne, et que vous nous écoutez là-bas.
Ouais.
Et puis en attendant, se retrouver le mois prochain, jouez bien. Ça me fait penser à une très mauvaise blague. Tu sais ce que c'est un canif, un petit fien. D'ailleurs, je pense que c'est dommage parce que comme il parle pas français, il a pas bien compris notre blague du canif et du petit fien. Il va falloir qu'on trouve une traduction.
Ouais, je pense qu'on va le little dog.
Il va pas être déçu du niveau, tiens.